On parlait dans le Journal de Québec ce matin les propos du scientifique en chef du Québec, qui a soit dit en passant, l'un des titres les plus badass que j'ai entendu de ma vie, scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, qui prétend que le Québec est très en retard en ce qui concerne la cybersécurité, la sécurité de nos données personnelles. Mon prochain invité est dans le domaine depuis un bout de temps déjà. Steve Waterhouse est expert en cybersécurité. Bonjour, M. Waterhouse.
Bonjour, messieurs.
Content de vous parler, ça faisait longtemps. Le fait que le scientifique en chef du Québec lève le drapeau, alors que vous le faites quand même depuis un bout de temps, M. Waterhouse, mais c'est un pas dans la bonne direction quand même.
Oui, c'est une confirmation de ce qu'on dit effectivement depuis un certain temps. Et de le dire officiellement, ben c'est un rappel justement aux élus de qu'il faut mettre les bouchées doubles pour être capable de rattraper ce temps perdu à ne pas considérer ce qui était rendu évident aujourd'hui.
Pourquoi? Comment on explique ça qu'on ait autant perdu de temps et qu'on soit autant à la traîne, par exemple, de puissances comme les États-Unis, comme la Chine?
Je te dirais, Padre Raphaël, c'est qu'on ne regardait pas le. Il y a beaucoup d'entreprises et pour dire des élus qui ne regardaient pas le problème au-delà de l'immédiat. Et il y a une grosse différence quand tu fais affaire au quotidien avec des menaces pendantes, là, puis veut dire le Québec, il est encore technologiquement, il se déplace rapidement, vitesse grand V. Pourtant, on a des entreprises et du développement de technologies de pointe. Fait que c'est là que c'est difficile d'expliquer comment que la cybersécurité n'a pas suivi. Mais c'est un manque d'intérêt, je te dirais. Et là, maintenant, tout le monde, depuis cet été, ben, ils ont eu la claque au visage pour être capable de dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Et oui, effectivement, cet éveil collectif-là fait en sorte que là, les gens ils disent « Hey, je pense qu'on est en train, il faut faire quelque chose par rapport à ça. » Mais il est déjà trop tard, mais quand même pas assez tard pour ne rien faire. Il y a encore de la marge à manœuvre.
OK. Le scientifique en chef prétend que d'ailleurs, si on n'agit pas au plus vite, là, si on n'intervient pas rapidement, on pourrait devenir d'une certaine façon dépendant de puissances étrangères. Il nomme la Chine, mais il parle aussi de puissances commerciales comme Google. Mais c'est quoi les conséquences réelles de ça pour les gens qui nous écoutent, pour moi, pour vous, pour Jonathan, les conséquences réelles là, d'une société où on est un peu pris par la Chine, par les États-Unis, les Google, les GAFA et compagnie, ça change quoi dans la vie du monde?
Ben, je vais donner un exemple concret, Paul Raphaël. C'est l'exemple l'utilisation de l'info nuagique pour stocker des données. Okay. Alors qu'au Québec, il fallait donner un coup de barre. Il y avait beaucoup trop de centres de données pour héberger toutes ces l'information. Là, ça s'en va dans un projet de rationalisation, puis amener ça dans un mode qui en a un peu plus moins à s'occuper. Ça va coûter moins cher en principe. Cependant, les données, par contre, qui vont être identifiées moins critiques, mais vont être amenées dans des infos nuagiques, donc dans des endroits de stockage à l'extérieur du gouvernement, donc dans l'entreprise privée.
Okay.
Si le travail aurait été mieux préparé, fait en aval de cette situation-là, ben à ce moment-là, en amont plutôt, et ça aurait été de le faire, ce genre d'hébergement-là préventif à l'intérieur même du gouvernement. Là, il faut dépendre de ces infrastructures-là, eux autres, parce que l'entreprise privée l'ont vu, ils l'ont anticipé le coût, là, puis ils l'ont mis sur le marché, donc des offres de services comme ça. Fait que pour le gestionnaire, ça dépend. Les données s'en vont là, c'est à vérifier, c'est organisé, ça va être sécuritaire. Cependant, c'est tributaire de comment est-ce que l'organisation privée va en prendre soin.
OK. Le scientifique en chef parle d'une solution technologique que je connais pas beaucoup. J'aimerais que vous nous l'expliquiez autant que possible, mais il parle du blockchain, donc une espèce de chaîne de blocs de données. Là. Moi, j'arrête pas de parler d'investir dans la biométrie depuis longtemps, mais là, lui, il semble dire que le blockchain, ce serait vraiment la solution envisagée. Pensez quoi de ça? C'est quoi ça, d'abord, le blockchain?
Ben, c'est comme un grand livre dans lequel on va inscrire les transactions qu'il doit y avoir avec l'échange de monnaie virtuelle, les bitcoins de ce monde. Donc, quand on arrive à écrire une transaction entre un compte A versus un compte B, tu ne sauras pas c'est qui est en arrière, parce que l'idée, c'est de garder ça confidentiel. Cependant, le processus de transaction, lui, est connu, il est public. Tu peux savoir qu'en tout temps, le compte A, il a échangé combien de bitcoins avec l'autre, le compte B. Donc, quand on amène cette façon de faire, donc qui prouve l'intégrité d'un échange d'informations qui devient inviolable par rapport à la mathématique impliquée qui dit personne ne peut venir changer ou modifier qu'est-ce qui a été rapporté. Okay. C'est cette technologie-là qui va permettre de garder justement un œil beaucoup plus serré sur qui a fait quoi dans le temps.
Mais est-ce qu'on est quand même capable, selon vous, d'implanter ça dans nos procédures actuellement, dans nos procédures?
C'est déjà envisagé, mais c'est une question de temps de l'essayer avec la technologie actuelle. Est-ce que ça va être capable de soutenir, et surtout, pas juste pour les 5 prochaines années, il faut qu'ils planifient ça sur 10 ans, 15 ans, c'est là la partie qui est difficile.
OK. Dernière question pour vous, M. Waterhouse. Ça a l'air bien étrange, mais je pense que c'est pas si fou que ça. Comment ça se fait que quand un policier arrête un individu pour un geste criminel, il prend ses empreintes digitales de manière presque systématique, mais qu'on n'a aucune donnée biométrique comme celle-là pour protéger, par exemple, nos comptes en banque et notre identité aux yeux de l'État? Il me semble que c'est, parce que on en parle souvent de la biométrie, mais tu sais, là, je parle de reconnaissance faciale, reconnaissance oculaire, les empreintes digitales. Oui. Les policiers font leurs enquêtes en fonction de banques d'ADN. Mm-hmm. Pourquoi on n'utilise pas ça si les technologies existent déjà? Il me semble que c'est au bout de nos doigts, sans mauvais jeu de mots.
Oui, l'analogie est très bonne. Ben, c'est parce qu'on arrive à un moment donné, ce que ça enfreint la liberté. Parce que, on voit depuis, mettons, les 70 dernières années, les pays communistes traiter la population comme ça. Et là, de notre point de vue, où va de société ouverte, on dit, ça n'a pas de sens de ficher tout le monde systématiquement comme ça. Donc, là, on
est fiché par un numéro d'assurance sociale quand même, là, d'une certaine manière.
Oui, mais ça donne la liberté, pareil, d'aller à travers le Canada sans que tu aies besoin de prouver qui t'es. À part que quand tu arrives et tu fais une demande d'emploi, là, c'est certain, faut que tu prouves qui tu es. Mais devant ça, d'aller chercher un outil pour puis demander à chaque citoyen de systématiquement donner de l'information comme ça, puis après ça, au gouvernement, on dit, on a confiance, ils vont le faire avec des législations appropriées qui vont avoir été votées, parfait. Mais quand c'est utilisé à mauvais escient, on le voit dans des pays où ce que tu as la répression populaire qui est effectuée. Je te donne un exemple en Hong Kong ou d'autres pays comme ça. Ouais. Ben là, ils se servent justement de tous ces éléments-là de biométrie qui sont à l'intérieur du gouvernement ou dans leur base de données. Puis là, plus facilement, ils sont capables de dire, ben là, c'est certain, hors de tout doute, c'est ça là, avant même qu'il y ait eu un procès. Donc, c'est à la base de la liberté d'expression, la liberté de chacun et surtout la justice, de la façon qui est bâtie. Pour aller dans la direction que tu l'apportes, Paul-Raphaël, il faut revoir tous ces éléments-là judiciaires pour être capable d'y accéder.
OK. Merci, M. Waterhouse, d'avoir pris un peu de temps pour nous.
C'est un plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne journée. Steve Waterhouse est expert en cybersécurité. Comme à toutes les fois que je lui parle, je suis pas moins inquiet après. C'est tout le temps pire après. Mais il reste que je comprends les craintes de M. Waterhouse, puis j'avais jamais vraiment envisagé ça sous cet angle-là. Mais on est quand même loin du système communiste chinois là, tu sais. Dans le sens où moi je te parle là, par exemple pour les informations de ma banque. C'est pour m'identifier pour quelque chose d'aussi important qu'une demande de prêt hypothécaire, une demande de prêt automobile, qu'une compagnie m'engage, elle veut faire une vérification de mes antécédents, puis tu sais, elle veut savoir si je suis bel et bien la personne que je prétends être. Tu sais, pour ces opérations là, un doigt, là, tu sais, une empreinte digitale d'index, là, ou, tu sais, je veux dire, on les met dans nos téléphones à cette heure, puis il n'y a pas personne qui a peur que Apple devienne le grand maître communiste, puis qu'il nous traque, là, mais on se laisse traquer, puis on met la reconnaissance faciale, ben oui. La reconnaissance des empreintes digitales dans nos téléphones. Mais ça, moi, puis en même temps, à la limite, sinon, tu laisses le choix. Laisse le libre choix à tout le monde, là. Moi, je te dis pas imposer ça à tout le monde. Mais je te dis, moi, s'il y avait une banque aujourd'hui qui me disait, savez-vous quoi, M. Charon? Vous allez pouvoir sécuriser vos comptes puis vos affaires, là. Puis si, quand vous voulez faire une transaction, là, puis que c'est vraiment une grosse affaire, vous vous déplacez, puis vous mettez le pouce, vous mettez l'index, pour qu'on soit certain que c'est vous.
Mais en même temps...
Ça évite à des affaires comme il est arrivé à mon chum Jeff Blanchet, qui s'est fait frauder pour 7 000 $, qui a passé la semaine avec la police, avec les conseillers, avec...
Mais l'importance, c'est l'encryptage des données, l'encryptage de ton la reconnaissance faciale. Il faut pas que quelqu'un soit capable de tomber là-dessus facilement et de falsifier, donc d'envoyer, par exemple, ton empreinte de doigt à un système X ou Y et qui lui permettrait de débarrer je sais pas quoi, ton compte en banque, par exemple. C'est ce pourquoi il doit y avoir un encryptage plus fort que ce que l'on connaît actuellement.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parlait du fameux blockchain. Là. J'espère qu'on n'a pas trop perdu avec ça, parce que ça peut paraître très technique, mais ce que j'en ai compris, moi, là, Joe, grosso modo, là, prends l'ensemble des données de tous les Québécois, puis fais comme si c'était des pièces de monnaie dans une tirelire en cochon. Okay? Au lieu de prendre toutes tes pièces puis toutes les mettre dans le même cochon, tu te fais plein de petites bourses puis tu vas les cacher partout dans le monde. Après, ben, tu es capable d'aller toutes les récupérer une après l'autre parce que tu sais son où. C'est quand tu as besoin, ben, tu vas piger dans un sac puis tu ramènes ça chez vous. T'sais? Plutôt que de tout cacher au même endroit Puis là, ben, si tu te fais pirater ta tirelire, t'as plus rien.
Ouais, mais on l'a vu avec le blockchain, des gens qui avaient acheté du Bitcoin puis qui sont décédés. Et
ah
qui,
oui.
En bout de ligne, les héritiers n'ont personne pas vu la où. Couleur de ces bitcoins-là.
Ben, ah oui, c'est ça. Mais là, on s'entend qu'on est dans un... On essaie de penser à la façon... Le jour où l'État veut gérer nos données, là, ça s'en vient, ça. Là. Oubliez
ah
pas
oui.
que ça s'en vient. Il y a un ministère de ça au, au Québec, là. Ça fait que moi, ça me fait bien peur. Mais il y a espoir. Écoute, il y a espoir, les amis. On prend une courte pause. Au retour, les manchettes avec Julie.